Et voilà, le Canadien remporte le match. Une victoire décisive de 5 à 1. Et ils avaient besoin d'Annie, d'un peu de succès, le Canadien. C'est parti, bon match!
Salut mesdames, messieurs, bienvenue à l'épisode numéro 17 du balado Bon Match. Salut Danny.
Salut Martin.
Alors d'autres sujets intéressants, bien sûr, on est à la conclusion de la saison régulière, ouais. La 23-24 pour le Canadien de Montréal. On est à peu près au même endroit par rapport à l'an passé du côté du Canadien statistiquement parlant. Ouais. On se dirige vers une saison assez semblable. D'où est venue l'amélioration vraiment cette année? Y a-t-il une amélioration pour le Canadien en cette saison? Et si on doit améliorer et faire avancer l'équipe l'an prochain, est-ce que ça pourra venir de l'intérieur ou si on aura besoin d'aide extérieure? Mm-hmm. Le prochain contributeur important de 30 buts chez le Canadien après potentiellement Cole Caulfield et Nick Suzuki, qui sera-t-il? Est-ce que le Canadien devra aussi regarder à l'extérieur ou si on peut avoir sous la main ce contributeur de 30 buts? Dans la Ligue nationale, à la conclusion de la saison régulière, il y a 8 équipes qui se battent actuellement pour gagner le championnat de la saison régulière. Oui, le championnat de la saison régulière. Est-ce vraiment utile? Quoi qu'il en soit, ces 8 équipes se livrent une bataille qu'on a vue peu souvent au cours des dernières saisons. Alors, Danny, enchaînons maintenant avec le Canadien de Montréal qui va conclure très bientôt sa saison régulière après un long voyage dans l'Ouest qui se termine au moment où nous enregistrons cet épisode numéro 17 du balado Bon Match. Nous sommes d'ailleurs au Climate Pledge Arena, le magnifique arena.
Très beau.
Le magnifique arena du Kraken de Seattle.
Mais pas chaud au matin.
Où le Canadien a gagné 5 à 1 dimanche soir dernier. À la conclusion de ce voyage, Danny, malheureusement, n'ayant pas amassé beaucoup de points dans le voyage dans l'Ouest américain, non. Un peu comme c'était anticipé d'ailleurs, là, le Canadien va, si la tendance se maintient, terminer la saison dans le dernier tiers des équipes au classement général et ça les placera à une ou deux positions près au même endroit qu'à la conclusion de la saison 22-23. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier le Canadien d'une équipe améliorée?
Ben écoute, rapidement, là, juste dire que l'an passé, le Canadien a 31 victoires, on finit en pourcentage d'efficacité. Lorsqu'on regarde les points accumulés, joué pour 415, sont à 457 actuellement. 68 points l'an passé au total. Maintenant, là, à 70 matchs, on a 64 points. On est peut-être légèrement en avance, mais c'est vraiment pas significatif. Maintenant, tu sais, l'an passé, on regardait, on disait, bah, c'était difficile l'an passé. Là, c'était 307 buts que le Canadien avait accordé. Mais il y avait quand même des choses intéressantes. On disait, bon, on va améliorer l'avantage numérique, c'est sûr. On va probablement bonifier également la contribution offensive de certains joueurs. On va avoir plus de gars de 20 buts dans l'équipe. Parce que l'an passé, là, cette année, il est invisible, là, Josh Anderson, mais l'an passé, quand même 21 buts. Là.
Ouais.
Et des marqueurs de 21 buts à l'aile, c'est ce que tu vas avoir besoin pour aller un peu plus loin. Parce que, honnêtement, Dak en santé, Nick Suzuki, tu as déjà deux joueurs de centre quand même assez intéressants, mais tu dois les entourer. Ça va prendre des joueurs qui sont un petit peu plus prolifiques. Est-ce que Nouhouk est un joueur de 30 buts ou mais certainement un joueur de 20 buts parce qu'il a joué 43 matchs cette année, Martin, puis il a 12 buts. Slafkovský est à 15 buts déjà. Donc, ça te fait deux gars là qui potentiellement peuvent flirter avec les plus de 20 buts et éventuellement peut-être espérer avoir un gars là-dedans qui peut marquer 30 buts.
Le Canadien va se trouver avec un groupe d'équipes là, dans lequel on retrouve les Sharks de San Jose, les Blackhawks de Chicago et les Ducks d'Anaheim. Ça, ce sont les trois pires équipes de la Ligue nationale. Mm-hmm. Dans l'ordre ou dans le désordre, là, ça va ressembler à ça lorsque le match 82 sera joué pour toutes les équipes de la Ligue. Ensuite, là, il y a le groupe comprenant les Blue Jackets de Columbus, l'Arizona, Montréal, Ottawa et le Kraken de Seattle là, qui forme la coupure, le dernier tiers de ce classement général dans la Ligue nationale. Comment le Canadien peut se détacher de ces équipes-là? Parce que je suis convaincu, Danny, que les amateurs, les partisans espéraient voir le Canadien sortir un peu de ce lot-là cette année.
Bien, on souhaitait tous voir une amélioration un petit peu plus significative. Bon, après, on peut regarder avec les blessures, tout ce qui s'est passé, mais Mais honnêtement, il y a encore du bois mort chez le Canadien. Mm-hmm. Tu sais, je veux pas trop taper sur le même clou, mais la haute direction de l'équipe, s'ils veulent s'améliorer, ils doivent en avoir plus pour leur argent. C'est assez simple, là, je veux dire. Tu regardes Gallagher, tu regardes Anderson cette année, mm-hmm. tu regardes Dvorak qui est blessé. Il y a plusieurs joueurs chez le Canadien qui sous-performent. Et ces joueurs-là te rendent ton travail extrêmement difficile au niveau de la progression de l'équipe.
Et ces trois joueurs-là empochent des salaires annuels qui dépassent les 4 millions de dollars.
Oui, exactement.
Et c'est pas facile à faire du ménage quand on arrive dans les contrats lourds. On n'apprendra rien à personne. Mmh. Mais il y a une mathématique qui va être nécessaire. Parce que faut rappeler, Danny, que le noyau dur de l'équipe maintenant tourne mm-hmm. autour de Nick Suzuki. Oui. Nick Suzuki va franchir le cap de la mi-vingtaine l'an prochain. On espère aussi amener ce groupe-là à maturité quand on a fait l'acquisition de Kirby Dach, d'Alex Newhook. C'est qu'on voulait des joueurs à greffer autour du capitaine mi-vingtaine mm-hmm. et de Cole Caulfield et de Samuel Montembeau qui dépasse déjà la mi-vingtaine. On voulait avoir un groupe qui arrive à maturité.
Ouais.
Ils ne peuvent pas tout arriver la même année, là, mais arrivent à peu près ensemble à maturité.
Ouais.
Les choix de repêchage, Danny, même si le Canadien repêchait, faisait une belle trouvaille au repêchage de cette année, parce que la loterie devrait placer le Canadien dans le top 10 là, si la tendance se maintient encore là, pour le prochain repêchage.
Oui.
À moins de faire une découverte exceptionnelle que personne ne voit venir, même un choix de top 10 cette année n'amènera pas un attaquant de haut niveau dans le top 6 du Canadien. Ça n'amènera pas. Alors, il faut aller le chercher dans ce groupe d'âge de la mi-vingtaine, Danny, mmh. pour profiter, maximiser l'âge des autres joueurs que j'ai identifié.
Oui. Bien, en fait, tu sais, le Canadien est dans une situation intéressante au niveau de ses choix de repêchage. Là, on en a souvent parlé. Ouais. Ça lui donne la marge de manœuvre. Est-ce qu'on va utiliser les choix de repêchage pour aller chercher un joueur ou pour se départir de salaire? Parce que, tu sais, le Canadien le fait, là. Alors, on a soulagé les Flames de Calgary.
Oui.
En acceptant de prendre le joueur et le salaire, évidemment,
Monahan.
De Sean Monahan. Et, et ultimement, ça a bien servi le Canadien.
Ça a très bien servi le Canadien.
Donc, est-ce qu'on peut faire la même chose du côté du Canadien? Est-ce qu'on peut sacrifier un premier choix, que ce soit le choix de Winnipeg ou même le choix du Canadien de Montréal, oui. et de se départir d'un joueur? Moi, tu sais, je regarde la stratégie, là. Très froidement, je me dis, l'an prochain, est-ce qu'on va avoir besoin l'an prochain de Jordan Harris? Est-ce qu'on va avoir besoin l'an prochain de Kovacevic? Ce sont des joueurs qui ne coûtent même pas un million, des gars qui sont, sans dire des joueurs établis, ce sont des joueurs de la Ligue nationale.
Ouais.
Donc, des joueurs qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, et qui te permettraient de faire un peu de gymnastique puis d'avoir de la marge de manœuvre et de te libérer d'un salaire. Est-ce que c'est le salaire de Gallagher? Est-ce que c'est le salaire de Josh Anderson? J'en sais trop rien. Comment l'organisation voit les choses? Mais c'est sûr qu'il faut faire de la place, Martin, en avant, si on veut réussir à faire l'acquisition d'un joueur qui va avoir une contribution significative.
À moins qu'on ne veuille pas réellement avancer l'an prochain. C'est-à-dire, on veut toujours avancer, mais à moins qu'on ne veuille pas faire un pas important l'an prochain, Danny.
Ouais.
Ça pourrait être le choix que fait la direction. Mais d'attendre une autre année, ça devient un peu périlleux. Pourquoi? Parce que il faut pas que tu décourages le vestiaire.
Ben, ça, c'est l'élément qu'on discute souvent de ça en dehors des ondes, parce que à un moment donné, là, tu peux dire à tes joueurs de travailler, on est en train de bâtir quelque chose, etc. Mais ton discours, il y a une usure. Mm-hmm. Tu sais, il y a une fin, là. Il y a une date. À un moment donné, les gars, ils vont dire « Hey, coach, parle avec le gérant général, parle avec Kent, là, mais on a besoin d'aide. »
On n'avance pas, là.
On n'avance pas, il faut s'améliorer. Ouais.
Et rappelons la déclaration de Nick Suzuki, quelques heures après l'heure limite des transactions, où il dit « On a besoin de bras, on a besoin de joueurs qui contribuent, on a assez de choix de repêchage, puis on a assez de prospects. »
Oui, bien ça,
c'est pas le directeur général, ça, c'est un joueur qui parle comme
c'est,
ça.
C'est le capitaine.
Mais c'est parce que c'est le capitaine.
C'est le capitaine, puis c'est un jeune joueur, puis c'est un gars à qui on en demande beaucoup.
Ouais.
Alors, évidemment, on lui demande de jouer comme un capitaine, il joue comme un capitaine. On va parler tout à l'heure de ces chiffres-là, puis on pourrait y revenir, mais tu sais, moi je pense que le Canadien a fait des efforts pour améliorer son vestiaire, puis améliorer son noyau. Mais c'est pas encore assez.
La qualité des individus est là, Danny. Tous ces joueurs-là se sentent concernés. Puis je pense qu'ils vont, ils vont jouer fièrement jusqu'à la fin.
Oui, oui, mais attends. C'est...
Mais en même temps, ça prend de l'aide.
C'est bon.
Ça prend de l'aide.
Des bons gars qui sont pas bons, ça glace.
Ça avancera pas beaucoup. Ça
alors,
prend de l'aide.
Tu sais, on a vraiment là, un noyau qui est pas assez élargi. Puis là, je m'explique. Au moment où ton équipe est pas, il n'y a pas assez de profondeur dans le noyau de ton équipe, donc tu peux avoir de la profondeur en termes de quantité de joueurs, mais si les joueurs ne sont pas en mesure de jouer un cran plus haut, bien là, tu te retrouves dans une situation où tu en demandes trop à des joueurs. Ils se découragent. Oui. Ils perdent confiance en eux.
Ou tu les exposes même à des blessures si tu leur en demandes un peu trop.
Toutes ces affaires-là, ça arrive dans de telles situations. Alors, c'est sûr que si tu demandes à Harvey Pinard d'aller chercher des buts quand tu tires de l'arrière, si tu demandes à Evans, si tu demandes à Armia, si tu demandes même cette année à Anderson, ça va être assez difficile. Donc, c'est très important de regarder ça froidement. Mais je termine en disant ceci. L'an passé, Anderson, il a 20 buts. Il est capable de marquer 20 buts.
Oui.
L'an passé, on a quand même eu Kirby Dach un peu plus longtemps. Donc,
oui,
il y a eu une contribution. Moi, tu sais, c'est pas tout noir non plus, là. Il y a des zones ombragées.
Joel Armia a été envoyé au ballotage au début de l'année à la conclusion du camp d'entraînement.
Ouais.
On pensait pas que la direction était pour faire ça, mais ils l'ont fait. Il est allé à Laval et ça a probablement sauvé sa carrière. Mm-hmm. Parce que, ultimement, Armia s'est avéré un très bon joueur pour le Canadien après. L'attitude a changé. C'est devenu un gagnant sur la patinoire, Danny. Il a arrêté de baisser la tête, Joel Armia.
Ouais.
Le Canadien en a bénéficié. Mais ça reste que c'est pas un top 6, Joel Armia. Si le Canadien utilise encore régulièrement Armia dans son top 6 l'an prochain, ça voudra dire que l'amélioration n'est pas encore assez importante chez le Canadien. Puis là, je reviens à Josh Anderson.
Mm-hmm.
Les organisations aiment pas faire ça. C'est-à-dire placer un joueur au ballottage qui est étiqueté comme un joueur de la Ligue nationale, puis ensuite l'envoyer dans la Ligue américaine. Mais c'est peut-être le passage obligé. Est-ce que ce sera déchirant de le faire avec Brandon Gallagher, un produit du Canadien développé et tout? Peut-être. Mais ces décisions-là arriveront, Danny, parce que si on veut entrer un attaquant du même acabit que Newhook, que Dach, qui va être un vrai contributeur de top 6 chez le Canadien, on va être obligé de faire ça.
Oui,
c'est une décision qui va être difficile à prendre.
Ça va être très difficile parce que, bon, au départ, là, bouffer du salaire comme ça, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui veulent faire ça, même les plus riches.
Oui.
Ensuite, tu envoies un très mauvais message. Après, quand tu vas aller chercher des joueurs, si tu envoies des gars avec des gros contrats, tu les gardes pas dans ton alignement, c'est plus difficile. Moi, tu sais, je vois vraiment, à court terme, ce que je vois vraiment, c'est plus le départ de gars qui sont dans des zones critiques. Je t'ai parlé des défenseurs tout à l'heure, parce que, d'après moi, là, y a des gars qui s'en viennent, des gars de Laval qui s'en viennent, puis
on a parlé dans nos récents épisodes qu'un gars comme Mayhew, on voit la conclusion de la saison dans la Ligue américaine et comment il contribue.
Ouais.
Mayhew, en temps normal, si la progression est régulière, il devrait être capable de se greffer au top 6 l'an prochain.
Ben oui. Mayhew, puis même, tu sais, je regarde, on va avoir un préjugé très favorable pour un backer.
Oui.
Si on regarde, on fait jouer des gauchers à droite, David a beaucoup de minutes, peut-être qu'on veut réduire ce nombre de minutes-là, peut-être qu'on est capable de...
Faire de lui un joueur de troisième paire. Hein?
Ben, c'est ça, puis plus spécialisé pour être encore plus efficace en désavantage. C'est vraiment un joueur extrêmement important chez le Canadien, là, trompons-nous pas. Mais juste dans la répartition des minutes, ça, je pense que c'est important.
Le prochain contributeur dans la zone des 25-30 buts, est-ce que c'est Slavkovski? Est-ce que c'est Newhook? Si ce contributeur-là, Danny, vient de l'interne, ça mettra moins de pression sur les décisions de la direction, ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire essayer de cacher un mauvais salaire ou un mauvais contrat dans le club école ou à quelque part.
Ouais.
Est-ce que ça peut venir d'un de ces deux joueurs-là?
Ben moi, je pense, je suis à peu près convaincu que Slavkovski et Newhook, c'est des marqueurs de 20, dans la zone des 20 buts, puis régulièrement, là, année après année. Ça, j'ai pas. J'ai même pas d'inquiétude. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que déjà, on flirte avec cette zone-là. Écoute, Nouhouk, il a joué 43 matchs, il a 12 buts. D'après moi, là, de se rendre à 20 buts, ça devrait pas être trop difficile pour lui. Cette année, peut-être un peu plus difficile, mais sur une saison complète, sans l'ombre d'un doute. Bon, Slavkovski est déjà à 15 buts en 70 matchs. Et Slavkovski, on n'a pas encore vu le meilleur de lui. C'est encore un joueur qui est très jeune en développement.
Par contre, faut pas oublier, Danny, que la progression des joueurs... Martin Saint-Louis aime ça, cette image-là. C'est jamais en constante évolution par en haut. Des fois, il y a des plateaux.
Ça,
des fois, ça descend un petit peu.
Ça me dérange pas.
Je pense que dans l'équation, il faut peut-être aussi le considérer dans le cas de Slavkovski. On ne sait jamais.
Non, je comprends, mais écoute, pour moi, là, il est à 15 buts, là, puis c'est une saison où il n'a même pas joué toute l'année sur un premier trio. Il est sur la première vague en avantage numérique. Il est en train de bâtir sa confiance. Moi, je pense que même dans ces mauvaises... Mettons, dans une saison ordinaire, il va faire 20 buts. Donc, pour moi, c'est un joueur qui est beaucoup plus dans les 20, 25 et plus. Et là, après ça, on verra. Mais ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est... Ça va en prendre un autre.
Ouais.
Parce que là, on va... Là, je dis comme je le sens, là... D'après moi, l'an prochain, là, on va regarder attentivement ce qui se passe avec Anderson. On va avoir une page blanche.
Oui.
Très attentivement. Gallagher, même affaire.
Oui.
Est-ce que ces gars-là sont des joueurs qui sont capables de nous donner 25 buts? Ils sont entre 20 et 25 buts. Parce que tu as besoin des ailiers qui produisent. Là.
C'est très limite. Dans
c'est
les
très,
deux cas,
très
c'est
limite.
Très limite.
Il reste un an au contrat de Dvorak. On le sait que Dvorak, c'est fini. On le sait que Evans, c'est un joueur quatrième trio. On lui en demande trop actuellement. Mais en désavantage, il est très précieux pour l'organisation. Donc, il y a un trou au centre aussi,
oui.
Martin.
Oui.
Ton troisième centre, tu l'as pas, là. Là, certains diront, ben, peut-être que c'est Inoua qui s'en vient là. Ben...
C'est peut-être préférable de le voir éventuellement comme un allié pour pallier à ce que tu viens de mentionner.
Je pense que oui.
Et Danny, à la défense, je pense que le portrait est assez intéressant. C'est pas là que ça crie au niveau des besoins rapides là, pour passer peut-être à l'autre niveau.
Oui.
Ça va se faire de l'intérieur. Et ça va se faire de l'intérieur également au niveau des gardiens de but.
Oui.
Les deux gardiens de but, Primo et Montembeau, auront un peu plus de millage encore, un peu plus d'expérience. Et il y a des équipes qui sont bien plus mal pris que le Canadien devant le filet et qui ambitionnent de devenir des équipes gagnantes, ce qui n'est pas le cas nécessairement du Canadien l'an prochain. Nous sommes de retour à Bon Match maintenant. Danny, au cours des derniers instants, on a parlé de la nécessité du Canadien d'obtenir de l'aide de l'extérieur parce qu'il n'est pas évident d'améliorer l'équipe pour l'an prochain avec le personnel qui est en place. On a confiance en Slavkovski, on a confiance au progrès que peut avoir Alex Newhook, mais ça va prendre de l'aide de l'extérieur et ça, c'est de plus en plus évident pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Est-ce qu'on a un profil? Est-ce qu'on a des équipes qui représentent des formations qui auront des choix déchirants à faire au cours de l'été? Tellement déchirants qu'il pourrait y avoir des cadeaux surprises potentiels pour le Canadien.
Cadeaux, je ne sais pas.
des équipes qui ont tellement de problèmes que de prendre de jeunes joueurs, de jeunes défenseurs avec des contrats d'entrée chez les professionnels, de prendre un premier choix peut-être même dans les 10 premières sélections l'été prochain va vraiment régler une partie de leurs problèmes. Des individus, des équipes, il y en a peut-être?
Oui, parce que moi, je regarde des situations actuellement à travers la Ligue nationale. Il y a des équipes qui vont avoir à prendre des décisions importantes. Et ces équipes-là, ben, il y en a peut-être qui vont être obligées de revoir leur profil de joueur, d'équipe, pardon. La Caroline, c'est un bon exemple parce que tu rentres Guentzel dans l'alignement. Tu sais que actuellement. Bon, tu regardes l'équipe, tu te dis, il y a peut-être, tu peux peut-être faire des économies en laissant partir des gars.
Ouais.
Ça va représenter à peu près 10 millions de tes économies. Mais tu as Jarvis que tu dois signer, tu as Guentzel que tu dois signer, tu as deux défenseurs dont Shea que tu dois signer. C'est énorme.
Les équipes qui ont fait de plus grosses acquisitions à la date limite, s'ils veulent garder ces joueurs-là,
oui,
potentiellement agents libres sans restriction à l'été, vont devoir faire des choix. C'est là que ça pourrait être intéressant pour, oui, le Canadien. C'est dans ces eaux-là où il peut, excusez l'expression, traîner un joueur qui va vraiment aider le Canadien,
oui,
dans son top 6.
Exactement.
Un attaquant.
Tu sais, il y a des organisations qui, tu sais, tu te dis, bon, je vais donner un exemple, là. Est-ce que Lucas Raymond peut devenir disponible à Détroit? Je pense pas, là.
Non.
Tu sais, je pense pas. Mais est-ce que Nick Ashe peut devenir disponible avec la Caroline? Ben là, j'ai le goût de dire, ben non. Mais en même temps, je regarde, ils vont avoir des choix à faire.
Oui.
Parce que lui et Jarvis, tu sais, on est dans la même situation. Et donc, c'est des joueurs avec restrictions qui arrivent à échéance. Puis là, à un moment donné, si tu veux garder Gensel, là, on se fera pas de cachette, là. Si la Caroline ne met pas 9 millions minimalement, ouais, sur la table, il n'y a même pas de discussion.
Parce,
là,
que l'agent de Gensel, on en a déjà parlé dans certains épisodes, ouais, de Bon Match, lui, il va considérer son client aussi important que Elias Pettersson avec les Canucks de Vancouver. C'est une production offensive assez semblable.
Ouais.
Il y a 30 ans. Alors ça va être intéressant. Puis des fois, et on l'a vu avec Newhook et Dak, des fois, qui aurait pu croire que les Blackhawks de Chicago étaient prêts à se départir de Kirby Dack?
Oui.
Qui aurait pu croire que le Canadien aurait été prêt à se départir de Alexander Romanov?
Exact.
On ne voyait pas ça venir.
Non.
L'avalanche du Colorado avec Alex Newhook, c'était peut-être un peu plus prévisible vu l'endroit où l'équipe se dirigeait. Là.
C'est pour ça que la Caroline, on les regarde. Là, parce que c'est
pour
c'est ça
que Nick Ashe pourrait être un candidat intéressant.
Oui, 25 ans. Avec lui, il est dans le groupe.
Dans le groupe d'âge de Suzuki.
Tout, ouais, ça, donc il est dans la bonne braquette,
ouais,
au bon endroit. Fait que moi, lui, je le considère, bon, il fait partie des joueurs qu'on doit considérer. Après, ben là, écoute, ça va dépendre de ce qui va se passer en série, je te,
ouais,
le dis, là. Tu sais, des fois, là, il arrive des situations en série qui fait que là, whoop, il y a un virage, ben, complet, là.
Tantôt, on va parler, bien sûr, des positions de tête, là. Mm. Il y a 8 favoris, Danny. Il va avoir des pleurs et des grincements dedans dès la première ronde parmi ces 8 favoris.
Ah, c'est sûr.
Alors, ça va conduire à des décisions.
Oui, puis il y a des joueurs qui, cette année, sont à échéance. Puis c'est des très, très bons joueurs.
Oui, et pas vieux.
Et pas vieux. Donc là, ces gars-là, t'es signes, là.
Et le Canadien...
Ça, je reviens à la Caroline.
Oui,
je termine là-dessus.
Oui,
je reviens,
oui,
à la Caroline, parce qu'à la défense, là, Pecci et Shea, c'est deux pièces maîtresses de leur, oui, affaire. Bien, les deux sont à échéance, puis les deux sont autour de 5 millions.
Alors, là, si tu gardes ces deux-là, ça te prend des jeunes défenseurs.
Exactement.
Prêts à jouer dans la Ligue nationale.
On a ça en stock.
Sur des contrats d'entrée ou sur des contrats de transition, là, qui coûteront pas cher. C'est de la mathématique, c'est compliqué pour les gens, mais à la fin de la journée, c'est comme ça que tu fais des mariages,
oui,
puis que tu réussis à t'améliorer. Et moi, je pense pas, Danny, que l'avenue du Canadien, c'est un agent libre sans restriction.
Non, moi non plus.
Parce que cette catégorie-là de joueurs magasine la Coupe Stanley.
Non, très bien de mentionner. Tu fais bien.
À quel, ouais, endroit ça se passe?
C'est pas là.
Par contre, les agents libres avec restriction, milieu vingtaine, sont vraiment les candidats idéaux pour le Canadien de Montréal.
T'as des choix, t'as des jeunes joueurs, t'as des gars qui jouent dans l'équipe de qui tu peux te départir. Ça, déjà, au départ, ça, c'est très intéressant. Maintenant,
ça prend un ailier ou un centre, ou c'est absolument un ailier?
C'est un ailier. Ça prend un ailier, là.
Un spécialiste
ailier. Ça prend un bon ailier, un gars qui est prolifique, qui est capable de marquer des buts. C'est difficile à sortir. Tu vas avoir à payer un certain prix. Il va peut-être avoir des sacrifices également à faire, ouais, chez le Canadien. On ne sait trop rien, là. Mais c'est le genre de décision qui va faire avancer l'équipe de façon considérable.
Sais-tu où est la subtilité là-dedans? C'est que des fois, il faut que tu puisses trouver, par exemple, un joueur qui, sans être un gars malheureux ou problématique, il est juste pas dans le bon puzzle.
Ah oui?
Puis là, l'équipe doit réaménager ses affaires.
Ça, c'est un autre profil. Ça, c'est une autre affaire.
Il est juste pas au bon endroit, au bon moment de l'évolution de l'équipe.
Là, il coûte moins cher, lui.
Puis là, le Canadien se présente avec cette banque de jeunes défenseurs, puis peut-être un choix de première ronde,
mm-hmm,
puis peut-être même, ça aussi, on en a discuté dans un des balados précédents de, ouais, Bon Match, peut-être même son premier choix top 10, Danny, là.
Ouais.
On est rendu là, si on veut avoir un joueur de qualité. Alors, des fois, c'est juste une occasion. Faut que tu profites d'une occasion.
Ça, c'est sûr. Jersey, c'est une équipe qui a beaucoup d'attaquants.
Même chose.
Ça pourrait être. C'est une équipe qui pourrait, avec qui le Canadien pourrait discuter. Je comprends que c'est dans la même association, mais aujourd'hui, ça ne dérange pas même.
Non, parce que les Devils du New Jersey pourraient, eux, se tourner vers le marché des joueurs autonomes sans restriction.
Oui.
Pour arriver à l'autre vitesse.
Exactement.
À ce moment-là, t'es peut-être prêt à laisser partir un jeune qui a déjà un salaire quand même assez intéressant pour pouvoir te permettre d'aller chercher ce joueur-là,
oui,
qui les ferait avancer une fois,
oui,
pour toutes. Là.
Ben, tu sais, déjà, là, on a identifié les scénarios d'équipes qui doivent aller loin en série, mm-hmm, qui ont fait l'acquisition de joueurs qu'on veut garder parce qu'on a payé quand même un certain prix pour les avoir.
Ça peut être Toffoli à Winnipeg, ça peut être beaucoup d'exemples.
Ces gars-là restent. Par conséquent, l'effet domino, c'est qu'il y a des départs.
Oui.
L'autre situation, c'est les équipes qui devaient participer aux séries puis qui ne participent pas aux séries, comme Jersey.
Oui.
Ça aussi, là, encore une fois, c'est sûr qu'il va y avoir du mouvement de personnel. Ils ont déjà laissé partir l'entraîneur puis ça n'a rien donné. Donc, la prochaine étape, c'est quoi? Ça va vraiment être d'aller voir dans l'alignement pour être en mesure, justement, de faire des changements qui sont significatifs, qui font avancer, parce qu'eux autres aussi, là, les échéanciers arrivent. Là.
Ouais. Dans l'Ouest, c'est difficile de trouver ce genre d'équipe-là, Danny, parce que le portrait est assez tranché là, entre, mm-hmm, les équipes qui se battent encore et ceux qui ne se battent plus. Alors, ça va être vraiment à surveiller. Le Canadien va avoir une opportunité, deux opportunités. Ça va dépendre du niveau de détermination qu'ils auront, ouais, à faire avancer le projet, mm-hmm, l'an prochain.
Ouais.
On s'arrête et bon match se poursuit dans un moment. Maintenant, Danny, la fin de la saison dans la Ligue nationale nous annonce une lutte excitante. Une lutte où, pas seulement pour accéder aux séries, mais aussi pour accéder au championnat de la saison régulière. Y a-tu vraiment quelqu'un qui veut être champion de la saison régulière?
Ben,
je le sais pas. Mais il y a quelque chose de vraiment exceptionnel parce que il y a 8 formations qui se battent à un point de différence entre la première et la huitième. Mm-hmm. Il y a les Jets de Winnipeg qui sont un peu plus loin, mais mathématiquement, la dizaine de matchs qui leur reste à jouer leur permettrait aussi encore de retrouver ce groupe de tête composé des Rangers, de la Floride, du Colorado, la Caroline, de Dallas et de Boston. Laquelle de ces équipes-là que t'aimes le plus, Danny?
Ben moi, j'aime beaucoup la Floride. Je trouve que la Floride, écoute, j'y regarde jouer leurs 4 trios. C'est peut-être pas l'équipe qui a le plus de « wow », mais ils ont changé leur manière de jouer. Quand je dis le plus de « wow », c'est qu'offensivement, mm-hmm, je regarde Colorado, c'est un « wow ». Je regarde la Caroline avec ce qu'on a fait comme acquisition, c'est un « wow ». Parce que Gensel a vraiment changé la configuration au niveau du premier trio. Mais le net-net dans cette histoire-là, je pense que les équipes qui ont plus d'expérience,
ouais,
en série sont définitivement avantagées. Et la Floride, pour ces raisons-là, pour moi, c'est vraiment l'équipe qui m'apparaît être le mieux équilibrée dans sa façon de jouer. C'est celle qui donne le moins de buts en attaque.
Ouais.
Et ils ont quand même un ratio intéressant avec plus 58. Ils marquent des buts et ils sont gros. Et c'est fatigant de jouer contre eux.
Par contre, une équipe comme le Colorado, avec une grande vedette comme Nathan MacKinnon, qui est probablement le joueur par excellence, ouais, de la saison régulière, il y en a qui aiment McDavid dans cette catégorie-là. Il y a peut-être d'autres noms, mais je vais te dire, personnellement, mon choix, ce serait MacKinnon cette année. Là, on va voir comment ça va se terminer à la soirée des trophées. Mais le Colorado, parmi, encore une fois, ces 8 équipes de tête, là, possède ce joueur-là. Par contre, les Stars de Dallas, on parle rarement d'eux. Mm-hmm. Mais en termes d'équilibre, Danny, eux et la Caroline, c'est difficile de faire mieux. En termes d'équilibre.
Ben moi, je vais te dire à quelle place j'ai un petit problème avec autant Dallas que Colorado. C'est que c'est des équipes qui ont besoin de trop de buts pour gagner. C'est des équipes qui, actuellement, ont dépassé depuis longtemps les 200 buts accordés, mm-hmm, à l'adversaire. Je comprends là, qu'ils ont de l'attaque. Je comprends qu'ils sont bons.
Ouais.
Là, mais admettons là, que je suis dans les souliers des entraîneurs de ces deux formations-là, je suis un peu dérangé par le nombre de buts accordés. Colorado, la situation devant le filet m'interpelle plus que celle de Dallas parce
mais,
que
mais ça Oettinger... reste ça reste une équipe qui va presque frôler les 40 victoires à domicile là. On sera pas à 40 mais on va être proche même oui. s'ils ont un problème devant le filet.
Ben oui, ben il y a tout le temps rondelle.
Ouais.
Mais à un moment donné en série, c'était un autre genre de hockey puis mm-hmm. moi j'ai ma crainte, elle est là. Ouais. Je dis pas qu'ils réussiront pas, mais si tu me demandes, on regarde lesquelles des équipes que tu préfères. Ensuite, j'aime beaucoup la Caroline, parce que la Caroline, là, leur enjeu, ça a toujours été la même chose, Martin. C'est d'avoir de la profondeur offensivement, parce que c'est une très bonne équipe. Puis là, tu te dis, OK, là, les acquisitions qu'ils ont faites, c'est des acquisitions majeures. Parce que des fois, tu n'as pas besoin d'en rentrer beaucoup des joueurs, mais il faut que tu en rentres qui ont de l'impact. Un impact significatif. Et eux, là, leur premier trio, je te le disais hier avant le match, oui. là, avant le match d'hier, c'était 27 points en 5 matchs pour le premier trio, dont 13 buts. La minute, là, ça commence à être...
Les Rangers de New York, dans ce groupe-là, oui. on doit les considérer... C'est pas tout le monde qui aime les Rangers comme modèle d'équipe. Là.
Oui.
Mais Danny, 1, 2, 3, les trios, là, ça va très bien. Panarin connaît la saison de sa carrière. Mm-hmm. Shesterkin, là, dans ce groupe d'équipe-là, actuellement, là, avec le gardien Hellebuck de Winnipeg, Winnipeg étant un petit peu plus bas que ce groupe de 8 équipes, là,
oh, oui.
est probablement le meilleur gardien en vue des séries avec Hellebuck dans tout le groupe qu'on a mentionné.
Oui.
Il y a des aspirants au titre, mais sur papier, comme ça, analyse primaire, mm-hmm. Les Rangers ont le meilleur gardien de but. Maintenant...
Les sleepers.
Oui, bien, écoute, parce qu'il y a un groupe en dessous. Et le groupe en dessous comprend actuellement les Maple Leafs de Toronto, les Oilers d'Edmonton, les Predators de Nashville, les Kings et les Golden Knights de Las Vegas. Ça, c'est le groupe, là, le groupe de tir qui pourrait faire tomber des favoris. À partir du moment où une de ces équipes-là réussit à faire tomber un favori, mm-hmm. tout est possible.
Oui.
Et j'aurais même pu ajouter le Lightning de Tampa Bay, mais ils sont un petit peu plus bas par rapport à ce groupe-là, mais ils ont tellement d'expérience en série oui. qu'on ne sait jamais.
Oui.
Alors, Danny, dans le groupe, là, ce groupe-là, est-ce qu'il y a là des équipes capables de menacer les premières équipes de tête de la Ligue?
Bien, c'est sûr que Vegas, ils n'ont pas l'affaire là, là. Eux autres, moi, c'est une des bonnes équipes de la Ligue en termes de gabarit, en termes de profondeur. En plus, ils ont des gars dans le réchaud, là. On sait comment ça fonctionne. Oui. Fait qu'eux autres, là, c'est pas mal l'ours qui dort, là.
Non, mais M. Bettman a dit à la réunion qu'il n'y a personne qui trèche,
Danny. Mais non, tout
est
correct.
Je ne sais pas pourquoi tu dis ça, il n'y a personne qui trèche.
Je m'excuse.
Vas-y, continue.
Non, mais après ça, Martin, dans les autres formations, bon, écoute, c'est sûr que Edmonton, c'est une très bonne équipe cette année. Nashville, actuellement, c'est l'équipe de l'heure.
Ça, c'est... Nashville, c'est l'équipe Cendrillon
oui.
de ce groupe-là.
Et c'est probablement l'équipe la plus dangereuse dans ce groupe-là. Un petit peu sous le radar, dans le sens que là, ben, c'est sûr qu'on voit que son équipe, c'est une équipe qui fonctionne à plein régime actuellement. Mais je pense pas qu'ils sont à plein régime parce qu'on surcharge des gars ou que la pédale est au fond. Écoute, les 4 trios jouent, les 6 défenseurs jouent, ils sont bien nantis devant le filet. Donc, leur situation, elle est très, très favorable. Moi, je pense que c'est une équipe très dangereuse. L'autre équipe qui peut causer des surprises, d'après moi, c'est Los Angeles.
Mais tu ne me parles pas des Maple Leafs. Troisième saison de 40 victoires, tu en fais complètement fi.
Oui. Exactement. Je trouve que les Leafs, malgré tous les efforts, sont pas assez bons à la défense. Mm-hmm. Sont pas assez solides à cette position-là. Puis devant le filet, ben, on verra bien. Là.
Ouais.
Peut-être que Wall va être l'élément surprise.
Ouais.
Peut-être
la carte
cachée.
En santé.
Peut-être la carte cachée, mais il faudra qu'il soit évidemment en santé. Sinon, ben, regardons les affaires froidement. C'est une équipe qui donne trop de buts à l'adversaire. Quand tu regardes les équipes, là, il y a deux formations qui me sautent aux yeux. Les Leafs ont donné 220 buts. D'après moi, c'est beaucoup, même s'ils ont une force de frappe. Et le Lightning de Tampa Bay a donné 235 buts.
C'est énorme.
Ça, Martin, là, ça ne trompe pas. Ça veut dire que tu as trop de pression sur ton attaque. Ouais. Quand ça va arriver le temps de jouer les grands matchs, il faudra réduire ça, puis peut-être que là, la profondeur va manquer.
Puis que là, l'arbitrage va être peu plus permissif.
Ouais.
Quoique le Lightning a quand même survécu à ça pendant une couple de saisons pour gagner des championnats.
Il y a beaucoup de hockey qui a été joué. Là.
Mais c'est le même noyau d'équipe, alors exact. On ne sait jamais.
Ouais.
Je termine, Danny, avec deux équipes, parce que tu as parlé du Lightning. Il y a deux équipes actuellement qui se retrouvent dans ce groupe-là. On pourrait parler d'équipes menacées. Mm-hmm. Les Red Wings de Détroit et les Capitals de Washington. Les Capitals, à l'instar des Prédateurs de Nashville, sont l'équipe Cendrillon.
Oui.
C'est la belle histoire de cette fin de saison. Vous allez me dire, ben oui, mais comment ça se fait l'équipe Cendrillon avec Alexander Ovechkin? Oui, parce que cette équipe-là, Danny, avant la pause du match des Étoiles, allait nulle part. Ouais. Ovechkin allait nulle part. Après, ça s'est mis à fonctionner. Puis quand tu parles d'expérience puis de vécu, y a-tu mieux que les Capitals de Washington dans ce département-là? Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Faut dire quand même, quand on parle de belle histoire, c'est que c'est probablement Charlie Lindgren qui va amener les Capitals en série si ça se fait.
Mm-hmm.
C'est lui qui va avoir réussi ça.
Ben écoute, c'est une découverte, là.
Entre autres.
Moi, honnêtement, là, son passage à Montréal, tu voyais que c'était un compétiteur, mm-hmm. mais honnêtement, il est tout croche, là. Donc, c'est pas un gars économique dans sa façon de jouer. Tu te dis, il va pouvoir faire ça 20-25 matchs,
oui.
ça tiendra pas la route. Ben, écoute, il est en train de surprendre tout le monde et c'est un compétiteur. C'est un gars qui se bat.
Sur une courte période, c'est le genre de gars qui peut devenir une belle histoire.
Il devient pratiquement une inspiration pour son équipe. L'autre gars qui est une inspiration, c'est Ovechkin. Ovechkin, là, il continue, là. Il va probablement atteindre les 30 buts encore cette année.
Puis lui, il est capable, Danny.
Mais oui.
Il est capable.
Exactement. Mais je te dis...
C'était une anomalie avant la pause du match des Étoiles de le voir aux alentours des 20 buts. Là.
Mais il y a une chose qui, pour moi, est claire. Là. Lui, il faudra qu'il fasse attention à lui pour la fin de sa carrière.
Oui, mais tu sais, parlons juste de ce printemps-ci. Même en faisant pas trop attention à lui, il va peut-être être capable d'amener son équipe en série.
Ah, oui.
Ça dépend d'une chose, Danny. Ça dépend des Red Wings de Détroit.
Oui.
Les Red Wings de Détroit, on les croyait partis pour les séries avec le Lightning de Tampa Bay. Il y avait une fissure assez importante qui s'était créée jusqu'à ce que les Capitals se mettent à gagner, que les Islanders menacent aussi les Red Wings. Mais les Red Wings ont encore causé leurs propres problèmes eux-mêmes.
Oui.
C'est pas les Islanders ni les Capitals qui ont bouffé les Red Wings. C'est à l'interne que ça s'est fait.
Mm-hmm.
Il y a cette séquence de 7 défaites d'affilée qui a mis un peu de plomb dans l'aile. Ils sont encore là, Danny. C'est pas perdu pour les Red Wings. Mais je suis obligé de penser que Steve Yzerman, qui a été considéré comme un dieu à Détroit, va jouer des grosses cartes avec l'accessibilité ou pas de son équipe en série.
Oui, si son équipe va pas en série, il va avoir des comptes à rendre, ça c'est sûr, parce que c'est un marché de hockey. Là.
Et on a investi, on est allé chercher des vétérans, on a changé d'entraîneur, on a fait quand même beaucoup de choses pour que ça arrive à Détroit.
Oui, ils ont quand même, à leur décharge, été aux prises avec des blessures importantes sur des joueurs clés.
Moi, Larkin, le premier.
Moi, je dirais Rousseau, le premier, là, parce que...
Le gardien de but, oui.
Le gardien de but, ça leur a fait mal.
Mais Larkin, c'est leur Nick Suzuki.
Oui.
Tu perds ton capitaine.
Ces deux gars-là, en fait, c'est dans tes pièces maîtresses. Quand tu perds des gars comme ça, c'est sûr que c'est très difficile. Mais quoi qu'il en soit, c'est la même histoire pour tout le monde. Mm-hmm. Tout le monde en perd des joueurs. Et moi, je pense que... Moi, je m'attendais cette année à les voir entrer en série. Honnêtement, cette perte de vitesse, elle est inquiétante. Et c'est une équipe qui vieillit. Puis, on va garder ça en tête parce que c'est un élément qui est très important. Après cette année, les Red Wings vont déjà être obligés de considérer à laisser partir des vétérans.
Oui.
Parce que pourra pas continuer avec une équipe qui vieillit et qui sous-performe.
Et Danny, là, il y a des choix qu'il faudra faire, là, mais... des Islanders, des Red Wings, des Capitals de Washington, il y a probablement une seule de ces équipes-là qui va rentrer en série.
Mm-hmm.
Laquelle, selon toi, est la mieux positionnée?
Ben écoute, actuellement, moi, je trouve que Washington, c'est l'équipe Cendrillon. Oui. C'est l'équipe surprise. C'est les mieux positionnés. Puis c'est quand faut regarder aussi l'historique, les 10, 12, 15 oui. derniers matchs, la vitesse de croisière des Capitals. On dirait que ça coïncide, Martin, avec le renvoi de Kuznetsov. Avec les, tu sais, on a quand même fait de la place à des jeunes. Oui. On a aéré un peu le vestiaire. Et je pense que tout le monde est derrière Ovechkin, puis on veut le voir atteindre ce fameux record. On verra bien, mais il reste, ce ne sera pas cette année, mais c'est l'inspiration. Je pense que c'est autour de lui que ça se passe.
Je pense pas que les Islanders, personnellement, non. vont réussir. Ils vont peut-être être là jusqu'au dernier dimanche de la saison régulière, mais je pense pas que ça va réussir. Et Danny, j'ai pas confiance aux Red Wings de Détroit.
Non.
J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, mais j'ai pas une grande confiance en cette équipe-là.
Mais tu parlais des Islanders. Les Islanders ils vieillissent, là.
Aussi.
Et ils sont lents. C'est une équipe très lente.
Ben en fait, ce qui est difficile à départir, là, c'est que ce sont trois équipes vieillissantes. Détroit, oui. les Islanders et les Capitals de Washington.
Oui. Mais il y en a peut-être plus inspirés que d'autres actuellement. Tu sais, c'est très... On vient toujours à la même chose. C'est du momentum que tu réussis à créer. Comment tu réussis à le faire? C'est d'une équipe à l'autre. Chaque équipe a son histoire. Mais moi, je suis vraiment impressionné par les Capitals de Washington. Puis depuis à peu près un mois et demi, là, ils jouent pour au-dessus de 700. Là. C'est quand même important.
Et ce qui est merveilleux, Danny, c'est qu'encore une fois, à la toute fin, ça va s'être décidé probablement au différentiel victoire-défaite entre ces trois équipes-là. Là, ça va se départir par un petit point. Voilà, mesdames, messieurs, ça met un terme à cet épisode numéro 17 du balado Bon Match. Merci, Danny.
Un plaisir.
Merci à Pierre Gervais, qui est un fidèle collaborateur à Bon Match. Au revoir et à la prochaine.